Je refuse totalement ce que
tu dis. Moi, j'ai été une convoitée au plus grand âge. Je pense qu'en combinant les deux, même si je devais précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour ces dernières paroles aux auditeurs de la semaine qui parlent santé avec la prévention des cas de paludisme. 277 personnes sont mortes de paludisme en 3 semaines dans 6 zones de santé du district sanitaire du Haut-Uele en province orientale. C'était au mois de juin dernier. Le médecin chef de district qui a donné ces chiffres au milieu du mois de juin, comme je venais de le dire, a précisé que ces décès ont eu lieu à Koko, Bomamangbetu, Wamba, Diadana et Isiro. Des cas de paludisme sont ainsi enregistrés dans beaucoup d'autres points de la RDC. Que faire pour prévenir les cas de paludisme dans votre milieu? Nous en parlons avec le docteur Francine Kandibi. Kimbili, qui travaille en médecine interne à la clinique Kinoavitia Kinshasa, Kikimputu, Willem Lungamba, Comtesse Matouba sont à la réalisation de cette émission supervisée par Nicole Ngata. Pierrot et la main, je vous la présente. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Pour cette dernière émission, vous pouvez aussi nous joindre au 081 890 43 39, 081 890 43 39, donner votre point de vue sur la prévention des cas de paludisme dans votre milieu, cette maladie qui fait beaucoup de morts, avec cet exemple où dans la province orientale où 277 personnes sont mortes du paludisme à l'intervalle de 3 semaines dans 6 zones de santé du district des sanitaires de Haut-Uele, je venais de le dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ces cas de paludisme dans votre milieu? Vous pouvez également le faire en nous déposant un commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Votre commentaire sera exploité dans cette émission. Comme je le disais, nous avons en ligne Dr Francine Kandibi, avec qui nous allons partager ses préoccupations sur le paludisme. C'est quoi même le paludisme? Comment cela se manifeste? Quelles sont les mesures à prendre? Quelles sont les précautions à prendre? Vous avez aussi des questions, des propositions, des points de vue? Vous êtes intéressé par les sujets sur le paludisme? Vous pouvez également nous joindre au 081 890 43 39. Docteur Francine Kandibi, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de commenter ce sujet avec les auditeurs des Radio Capi. Peut-être avant d'aller plus loin, pourriez-vous, en des termes plus simples, expliquer aux auditeurs c'est quoi juste le paludisme?
Le paludisme, c'est une maladie infectieuse qui se transmet par un moustique du genre anophèle. Il y a plusieurs sortes de moustiques. Donc, c'est le moustique du genre anophèle qui est responsable de la transmission de cette maladie. Mm-hmm. Et cette maladie est causée par un parasite du genre Plasmodium. Il y a plusieurs espèces de Plasmodium connues, environ 142, mais les espèces qui transmettent la malaria et le paludisme donc à l'homme sont de quatre types d'espèces. Donc, dans un premier temps, je pense que j'ai fait une petite définition succincte du paludisme.
Et on a eu cet exemple en province orientale où plus ou moins 270 personnes sont mortes en l'espace des 3 semaines. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent amener à un tel nombre de décès du paludisme? Parce qu'on sait que c'est une maladie qui est dans beaucoup de zones à travers le pays, mais qu'est-ce qui peut faire que dans une zone donnée, on puisse atteindre un chiffre si élevé de morts, voire même des cas qui peuvent se déclarer?
Bon, il faut d'abord savoir que le paludisme, c'est une maladie qui sévit autour d'une partie, dans une partie du globe qu'on appelle la ceinture de pauvreté du globe. Mm-hmm. Et elle y sévit de façon endémique. C'est-à-dire qu'elle est toujours présente, mais il y a des poussées épidémiques. Mm-hmm. Il y a des poussées épidémiques qui peuvent également arriver. Donc, la ceinture de pauvreté du globe, c'est cette partie du globe qu'on retrouve en Afrique, en Amérique et en Asie. En Afrique, essentiellement, au niveau, c'est l'Afrique subsaharienne qui est intéressée jusqu'au nord de la Namibie. En Amérique, c'est l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et en Asie, nous avons l'Asie mineure, l'Extrême-Orient, mm-hmm. la péninsule indienne. Donc, comme je vous l'ai dit, elle sévit de façon endémique, donc elle est toujours présente dans cette ceinture de pauvreté du globe, mais il peut arriver effectivement qu'il y ait des poussées en épidémie.
Mmh. Et voilà. Les poussées épidémiques sont provoquées par quoi?
Bon, il y a plusieurs raisons, hein, il y a plusieurs facteurs épidémiologiques qui peuvent intervenir. Bon, par exemple, les changements saisonniers peuvent intervenir. On a constaté que le paludisme sévit de façon plus importante lorsqu'il y a des changements saisonniers, par exemple. Mm-hmm. Il y a aussi d'autres modifications d'ordre lié au mode de vie, lié au lieu, à l'habitat où sont ces populations. Il y a plusieurs facteurs, mais essentiellement les facteurs liés à l'hygiène. Mmh. Parce que comme vous le savez, la maternité, si je peux parler ainsi, entre guillemets, la maternité des anophèles, ce sont les marécages, tous ces facteurs qui sont liés à une hygiène défectueuse sont des facteurs qui entretiennent le paludisme.
Donc, y a-t-il de régions, par exemple dans notre pays en RTC, des zones qui sont plus propices à avoir des poussées épidémiques par rapport à d'autres? Est-ce qu'il y a des provinces où on peut trouver des cas plus élevés et d'autres provinces qui sont épargnées, par exemple? C'est possible qu'on trouve ça ainsi à travers le pays?
Il y a effectivement des statistiques qui sont élaborées, notamment au niveau du ministère de la Santé publique et au niveau d'autres institutions qui traitent de cette pathologie. Nous avons au niveau de notre pays un programme national de lutte contre le paludisme. Donc au niveau de ces institutions, effectivement, il y a des répartitions géographiques qui sont précises par rapport aux zones, aux différentes zones où sévit le paludisme. Mmh.
Voilà, docteur, on vous garde en ligne, hein. Cette émission va continuer ici. On va écouter aussi les auditeurs, hein, ceux qui sont peut-être touchés par les paludismes dans leur milieu, quelles sont les préoccupations et aussi les expériences. Si vous avez une expérience par rapport à la prévention des paludismes dans votre milieu, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est fait sur le terrain, vous pouvez nous les partager cela avec nous dans Parole aux auditeurs, vous pouvez témoigner. Mais si vous avez aussi une contribution pour nous faire voir qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous pensez qui puisse être fait pour prévenir les cas de paludisme, n'hésitez pas à nous appeler au 081-890-43-39, la ligne est libre, vous pouvez intervenir en direct, votre point de vue, votre préoccupation, tout cela serait le bienvenu dans cette émission qui est consacrée aujourd'hui à la prévention du cas de paludisme, avec cet exemple que nous avons donné en province orientale où 270 personnes sont mortes de paludisme en 3 semaines dans les 6 zones de santé du district sanitaire du Haut-Uele. L'information a été rendue publique en mi-juin, hein, par le médecin chef de district, n'est-ce pas? On a parlé de Boko, de Bomamangbetu, de Wamba Giada na Isiro, les endroits qui ont été touchés où ces cas ont été enregistrés. Mais dans votre coin, là où vous êtes, quelle est la situation? Vous pouvez partager cela avec nous dans cette émission, mais le faire également par la page Facebook des Paroles aux Éditeurs, où vous pouvez nous déposer aussi votre commentaire, votre expérience et votre point de vue. Nous pouvons partager tout cela ensemble. Je rappelle encore la ligne pour les interventions en direct, 081-890-43-39, 081-890-43-39.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capé en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le Tour de Province, vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Bien avant qu'on aille les auditeurs, on a des petits soucis des directs avec nos auditeurs en CBA pour vous faire passer. Tout de suite là, on va vous accorder la parole. Mais bien avant que les auditeurs soient sur les antennes, ne vous découragez pas, continuez à appeler. La ligne pourra finir par vous être agréable et accordée. Nous allons revenir à vous, docteur Francine Kimbibi, parce que nous avons essayé de comprendre les causes, les circonstances, les facteurs, tout cela. Mais alors, revenons à quelqu'un. Si aujourd'hui, j'ai le paludisme, comment peut-on se rendre compte qu'on a le paludisme, docteur?
Oui, comme nous avons l'habitude de le dire, il y a une expression qui dit que chaque malade fait son propre paludisme.
Mm-hmm.
Ça veut dire que l'expression clinique du paludisme est polyvalente. La fièvre n'est plus actuellement le seul maître symptôme du paludisme.
Mm-hmm.
Le patient peut se présenter avec comme plainte des maux de tête, des douleurs, de la courbature, la fièvre naturellement, des douleurs au niveau des articulations, même des vertiges,
mm-hmm.
parfois des nausées, des vomissements. Mais d'une manière générale, l'expression clinique du paludisme peut être divisée, si je peux dire ainsi, en deux parties. Il y a ce qu'on appelle l'accès simple, le paludisme simple, et le paludisme grave.
Mmh.
Dans l'accès simple, prédomine de la fièvre, de distribution variable. Le patient peut se plaindre de céphalée, c'est-à-dire des maux de tête, mmh. des frissons, des douleurs au niveau des muscles. Il peut vomir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les symptômes de l'accès simple se présentent sous forme de tableau. Et il faut aussi noter que tous les symptômes ne sont pas nécessairement présents chez un même malade.
Mmh.
Donc, vous pouvez avoir certains symptômes, d'autres peuvent manquer. Par contre, dans l'accès palustre grave, l'accès palustre grave, peut lui aussi avoir plusieurs particularités. Et on peut avoir un tableau neurologique donc, où prédomine des troubles de comportement, voire un coma. On peut avoir aussi un tableau où prédomine la fièvre autour de 39-40 degrés Celsius. On peut avoir un tableau où prédomine l'anémie avec un taux d'hémoglobine qui serait inférieur à 5 mg pour cent.
Mm-hmm.
On peut avoir aussi des tableaux plus atypiques, surtout chez les enfants,
mmh.
où prédomine essentiellement des manifestations digestives. Hein.
Mmh.
Donc l'enfant va venir se plaindre de maux de ventre, l'enfant peut vomir, l'enfant peut même être déshydraté. Il y a également d'autres genres de tableaux où prédomine la douleur, qu'on appelle la forme algide. Il y a également ce tableau très important qu'on appelle dans l'accès palustre grave, qu'on appelle l'accès palustre à forte parasitémie.
Mmh.
Voilà, j'ai essayé de prendre un peu, la liste n'est pas exhaustive,
voilà.
Parce que les formes de paludisme, il y en a plus de 13, il y en a 13 actuellement, pardon, donc j'ai essayé de ramasser et de prendre un peu dans le lot pour expliquer que en clinique, il y a deux formes de paludisme, il y a l'accès simple et il y a le paludisme.
Voilà, merci. On regarde à l'UNAD, déjà quelques auditeurs, on va les écouter, ce qu'ils pensent de cela, ce qui se fait dans leur milieu, surtout les témoignages, hein, là où vous vivez, qu'est-ce qui est fait pour prévenir les paludismes, comment vous vous comportez sur le terrain, quelles sont les mesures qui sont prises. Sylvain, vous êtes à Bounia, Garba est à Kongolo, dans la province du Katanga. On commence avec vous, Sylvain, bonjour. Sylvain, vous êtes à Bounia, bonjour, voilà.
Oui, bonjour, Pierrot, mais aussi bonjour à les auditeurs et
vous avez suivi les descriptions de notre invité, docteur Francine Kimbibi. Revenons maintenant à ce qui se fait chez vous. On a parlé de la RDC comme une zone endémique, ça veut dire on a toujours le paludisme avec nous. Mais alors, parce que nous parlons de la prévention, concrètement, comment, qu'est-ce qui se fait à Bounia en ce qui concerne le paludisme?
Bon, d'abord, il faut dire d'une manière globale que donc, on parle de la prévention, que je suppose qu'on a besoin d'une bonne politique. Hein? Et puis, dans la gestion de cette épidémie ou de cette pandémie, je ne suis pas de la médecine pour utiliser à ce moment parler des concepts clés à ce qui concerne la gestion. Mais moi, je pense il y a d'abord un problème global. Je ne peux pas vous dire tout de suite. Ce qui se passe à Bounia, sans pour autant jeter mon regard sur les problèmes globaux, c'est-à-dire en mettant mes analyses sur les familles de la République, puisque la politique qui doit se passer dans la cité de Bounia ou en Ituri, en particulier dans la province orientale, doit d'abord dépendre de la grande politique en matière de cette santé, qui va être défini en RDC, à tant que pays. En situation géographique qui est déterminée. Et donc, seulement la conséquence peut être gestée dans une activité donnée en tant que Bounia. Alors, je considère d'abord que sur le plan national, je suis en train de me dire qu'il y a un problème en matière de la distribution de la politique qui doit correspondre à l'éradication de ces problèmes liés au palais. Si ma mémoire ne pêche pas contre moi, je crois que le palais risque d'être même parmi les objectifs millénaires. Et à ce sens-là, il faut quand même qu'on puisse avoir une très bonne politique de l'État, une très bonne politique nationale en matière de la prévention, l'histoire de ces paliers. Mais qu'est-ce que je constate? Je suis à Bounia, je pense qu'il y a d'abord un problème de logement décent. Il n'y en a pas. Donc, on a affaire à une population qui, dans la plupart des cas, est habitée ou soit habitée un logement indécent, un logement qui n'est pas décent. Et donc, ça pose un problème de l'environnement sanitaire.
Mmh.
Donc, à ce sens-là, d'accord avec le fait que le palliatif mérite d'être une maladie de métal. Mais il y a aussi un problème de budget de ménage. Est-ce qu'on arrive à se nourrir correctement? Combien de cette population de la cité de Bounia qui a accès à l'eau potable? Puisque aussi, la question de l'eau entre dans cette histoire-là du palliatif. Mais combien ont aussi accès à l'utilisation de moustiquaires imprégnés de ce type? Donc, je suis sûr que vous comprenez par là que je suis en train de croire même que si dans les plus grandes régions à l'issue de Francis du Congo, il y a des problèmes de palliatisme, et donc dans les réponses, telles que Bounia et ses environs, il y a encore de grands problèmes, puisque lorsqu'il n'y a pas une politique globale en matière de la gestion sanitaire, et tout le reste n'est que conséquence, et donc. Pour moi, je pense qu'il y a encore beaucoup plus de travail qui a fait de la politique des gestions sanitaires dans ce pays. Et pour y en être, il y a aussi la conséquence de cette mauvaise gestion.
Mmh, voilà, merci. Sylvain, vous pensez que tout doit d'abord être considéré d'une manière globale. Hein, là, il faut bien définir la politique globale de lutte contre le paludisme en RDC, ce qui va aussi se répercuter à Bounia, où vous avez relevé un certain nombre de problèmes. D'abord, le problème de l'environnement, de l'assainissement de l'environnement, les problèmes de physique, n'est-ce pas, un moustiquaire imprégné d'insecticides. Vous ne pensez pas combien de personnes en ont, beaucoup de personnes n'en ont pas, et dans ces conditions, il sera difficile qu'on puisse éradiquer le paludisme, mais vous insistez sur une politique globale qui doit être définie au niveau du ministère de la Santé pour lutter efficacement contre cette maladie. Merci beaucoup, Sylvain Debounia. Nous avons Garba, qui est à Kongolo, dans la province du Katanga. Garba, vous êtes avec nous, bonjour. Garba, vous êtes sur les antennes, bonjour. Là, on a eu des petits soucis avec Garba qui nous a appelé des Congolos au Katanga. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir dans cette émission 081-890-43-39. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct et donner votre point de vue, contribution, mais aussi poser une question si vous en avez sur la prévention du paludisme. Vous avez suivi Sylvain qui est à Bounia, qui pense que le problème doit figurer dans un programme global, n'est-ce pas, de définie au niveau du pouvoir public, de l'éradication du paludisme, mais là, ça pose aussi un certain nombre de problèmes environnementaux à Bounia, ce qui fait que dans ces conditions, c'est difficile peut-être que le paludisme puisse être éradiqué là où il est à Bounia. Nous revenons à vous, docteur Francine. Vous avez suivi notre producteur qui nous a parlé de Bounia. Cela s'inscrit directement dans notre partie qui concerne les mesures qu'il faut prendre, parce qu'on a décrit au début le paludisme. On a aussi évoqué les facteurs, ce qui peut faire à ce qu'on puisse atteindre des poussées épidémiques. On a vu ça. Vous avez aussi expliqué des signes. Mais revenons maintenant aux mesures qu'il faut prendre. Quel comportement doit-on avoir? Je crois qu'on peut peut-être aborder cela en deux volets. Le volet en amont, qu'est-ce qu'il faut faire en amont? Et bien sûr, quand on serait déjà malade, qu'est-ce qu'il faudrait aussi faire? On va revenir encore à nos auditeurs comme Jerry qui s'est agité, qui est au bandeau du docteur Francine.
Oui, j'ai suivi avec attention ce que l'auditeur de Bounia a dit. Je voulais, juste avant de répondre, donner un petit correctif et dire à notre auditeur, notre ami de Bounia, que le paludisme n'est pas une maladie de Machala, c'est une maladie de français, par un petit voilà. C'est une parenthèse que je ferme rapidement.
Oui.
Alors, en ce qui concerne, vous voulez... En ce qui concerne la prévention, c'est ça?
Oui, on comprend.
La prévention.
Voilà.
Bon, là, je m'inscris dans la même logique que notre ami de Bounia. Et comme je l'ai dit auparavant, au début de l'émission, il y a au niveau de notre... Le paludisme est une maladie, c'est un problème de santé publique.
Mmh.
Et au niveau du ministère de la Santé, existe un programme national de lutte contre le paludisme.
Mmh.
Et donc, il y a, au niveau de ce programme national, toute une série de mesures pour la vulgarisation, la sensibilisation des populations et aussi tout ce qui concerne la conduite à tenir devant un cas révélé, déclaré de paludisme.
Mm-hmm.
Donc, il y a déjà ce programme. Notre ami de Bounia peut être tranquille. Au niveau du ministère de la Santé, tout est mis en œuvre pour prendre en charge, pourquoi pas éradiquer cette maladie qui cause de graves dommages dans la société. Et je vous rappelle que le paludisme tue plus que l'infection à VIH-SIDA.
Mm-hmm.
Comme je vous l'ai dit au début, l'OMS estime à 2 milliards de personnes, ce sont des statistiques il y a quelques années, l'OMS estime à 2 milliards de personnes, environ les personnes qui sont infectées, et pour le... La seule Afrique, une mortalité d'un million par an.
Mmh.
Donc, c'est une maladie qui mérite de toute notre attention et toute l'attention du pouvoir public. Alors, en ce qui concerne la prévention, il y a essentiellement, comme je vous l'ai dit, les différentes rubriques en rapport sont élaborées au niveau du programme national de lutte. Mais ici, nous pouvons dire que, il faut un assainissement du milieu, effectivement. Et au niveau individuel, il faut se prémunir par l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Donc, essentiellement cela. Et lorsque vous tombez malade, naturellement, ce qu'il faut éviter, c'est une automédication. Parce qu'il y a un problème crucial qui se pose, en plus de l'endémie palustre, c'est le problème de la multirésistance aux antipaludéens. Et ça, c'est dû essentiellement, on va dire un peu, à l'utilisation anarchique des médicaments par notre population. Donc, lorsque vous êtes malade, le conseil que je peux donner en tant que médecin, c'est de consulter. Que ce soit pour un accès simple comme pour un accès grave, il faut consulter.
Voilà. Ok, nous allons écouter Géry qui est à Bandundu et Mathieu qui est à Canaïa. On commence avec vous, Géry. Vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité.
Nous parlons de cette maladie, nous parlons du paludisme, les mesures qui sont prises dans nos milieux, qu'est-ce qui est fait dans nos milieux, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir cela. Nous vous écoutons, Géry.
Oui, je suis vraiment à Bandundu. Dans moi, je suis dire, nous, ici à Bandundu, on a distribué des moustiquaires. Mais les moustiquaires, en soi, je peux dire, n'étaient pas guéris de malaria, parce que les moustiquaires, et la façon où vous entrez dans la maison et vous dormez tout simplement. Je ne sais pas, l'invité, qu'est-ce qu'il peut nous donner comme conseil avec ces moustiquaires-là ou dans les milieux où nous circulons, qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre ces maladies qu'on appelle les paludistes. La deuxième question que j'en ai, je vais dire à l'invité, qu'est-ce qu'il peut donner conseil aux gens, parce que beaucoup de gens, je peux dire, connaissent déjà des médicaments. Si l'enfant fait des fièvres, l'enfant fait cela, donc la maman ou le papa connaissent déjà mon enfant tombé dans l'état de malaria, donc il lui donne des médicaments, donc on n'a pas vraiment prescrit par les médecins. Qu'est-ce qu'il invite peut-être donner conseil d'aller à l'hôpital ou de rester à la maison avec des petits médicaments là qu'on peut guérir les malaria. C'est ça mes
préoccupations. Voilà, deux préoccupations. D'abord, c'est par rapport à l'usage des moustiquaires imprimés qui ont été distribués. Vous pensez que c'est juste pour dormir dans ces moustiquaires, mais est-ce que le moustiquaire à elle seule suffit pour résoudre le problème? Parce qu'il y a aussi des fois les difficultés pour les utiliser. Et puis, en ce qui concerne l'automédication, l'expression, c'est le terme. Il y a un enfant qui fait la fièvre, la maman va à côté de la rue, elle va acheter un médicament pour donner à l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel comportement adopter? Qu'est-ce que l'invité peut dire là-dessus? Merci. On pourra lui accorder la parole. Le temps d'écouter aussi Mathieu qui nous appelle de Kananga, au Kassai Occidental. Bonjour Mathieu.
Bonjour monsieur, pour la parole.
On vous écoute.
Oui, à propos de votre thématique de ce jour concernant le paludisme, oui, d'après la cartographie et les statistiques, ces maladies constituent les premières causes de la mortalité, surtout les femmes enceintes dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et les troisièmes de la mortalité pour les enfants du moins de 5 ans, c'est-à-dire quoi? Nous enregistrons 180 000 personnes qui décèdent chaque mois. Notre pays se classe tout juste après le Nigeria en Afrique subsaharienne, le plus touché. Si nous analysons, monsieur le ministre, les choses, nous trouvons plus de 27 millions de cas de paludisme sur une population de 62 millions d'habitants. Ça c'est après la OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Allez-vous comprendre quelque chose, monsieur le ministre? C'est tellement préoccupant. Après avoir pillé par-ci, par-là, nous trouvons qu'il y a des médicaments, mais qui ne sont pas capables de terminer une fois de plus cette épidémie. C'est tout simplement des calmants. En vrai sens du mot, on nous amène une fois de plus le mystiqueur d'un. Or, ce n'est pas à la portée de tous. Et ce n'est pas même une solution durable pour la vie de la population. Moi, je crois à ceci. Nous savons tous qu'il y a déjà, à travers les budgets qui viennent d'être adoptés, une partie pour la santé. À cela, je demande au gouvernement de faire tout le mieux possible afin de bouter dehors cette maladie mortelle, puisque c'est vraiment grave. Si nous voyons ce que nous sommes en train de constater. À cause de d'abord de l'environnement. Si l'environnement n'est pas bon, comme ici dans notre pays, la République de Russie, l'ensemble du territoire national, oui, on peut toujours d'attraper cette maladie, surtout à ce dernier jour où nos milieux sont mal propres, célébrités, publiques et autres, c'est toujours risquant. Alors, il faut entretenir nos milieux. C'est ça, merci. Mon analyse, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Mathieu. Vous avez souhaité par demander à chacun de pouvoir entretenir son milieu. Mais merci beaucoup pour les statistiques. Hein. Vous êtes bien préparé. On a suivi là. Vous avez quand même décrit la situation par rapport à ce que l'OMS dit à la RDC qui vient après le Nigeria, le nombre de cas, mais vous insistez beaucoup sur la disponibilité de moustiquaires imprégnés. C'est pas tout le monde, quand même, quand on les dit, on distribue, il faudrait que beaucoup de gens puissent avoir ça. Vous avez aussi interpellé les pouvoirs publics, hein, au niveau du budget, qu'on puisse avoir un budget conséquent par rapport à la santé. Et enfin, vous avez demandé à chacun de pouvoir assainir son milieu. Merci beaucoup, Mathieu de Kananga. Nous avons ici à Kinshasa, Sengi qui est avec nous. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, parole aux auditeurs.
Donc, on vous écoute, monsieur, par rapport à la prévention du paludisme à Kinshasa, où vous êtes aussi dans la capitale, là où vous habitez, les mesures qui sont prises et qui est fait, et comment tout cela se déroule-t-il pour lutter efficacement contre cette maladie?
Ok, merci d'abord de m'avoir accordé la parole pour l'émission d'aujourd'hui. Le problème de lutte contre le paludisme, c'est un sujet qu'on traite 16 fois au cours d'une année, plus de 5 fois dans l'émission par les auditeurs. Et nous, c'est comme si le gouvernement reste, sinon le ministère de la Santé reste presque insensible, néanmoins, il y a certaines choses qui se font ici par là. Mm-hmm. Mais le grand problème, c'est comme tout mettre le cerveau dans son sujet de la lutte contre le paludisme. C'est parce que ici, c'est comme nous connaissons tous que. C'est la capitale la plus sale du monde, Dieu merci. Mais si nous n'arrivons pas à éradiquer nos milieux de salubrité, nous aurons toujours exercé ce travail. Pourquoi? Parce que les gens vendent à même les sols et on trouve ça normal. Les gens mangent à côté de la poubelle. Dans une parcelle, vous entrez, vous trouvez une grande poubelle dans la parcelle qui est déjà fait 2-3 chaque semaine et qui, les moustiques sont là. Pour, disons, pour contaminer le monde. C'est le problème, c'est au niveau peut-être de la conscience de chacun, de chaque famille, de prendre ses responsabilités au lieu toujours d'accuser le gouvernement. Mm-hmm. Ça aussi, c'est un point. Aussi, nous remarquons que dans certains centres hospitaliers, vous y entrez, en tout cas, nous sommes étiez en bonne santé, vous serez malade. Ainsi, les milliers dans lesquels les personnes. Comme ça, le travail, mais ça ne va pas.
mais une solidité accrue. Alors comment on peut lutter contre le Sénat alors que vous, disons, les hôpitaux qui devraient nous fournir, disons, le milieu le plus propre du monde, ont trouvé des santé indestructibles. Donc, nous devons apprendre à lutter d'abord contre le salarié dans nos propres milieux, c'est-à-dire dans votre sanitaire, par votre salarié sanitaire, et trouver ainsi de suite que vous allez voir dans le quartier, et ainsi de suite, chacun dans son milieu de travail, même dans nos différents bureaux. Parce qu'à Kinshasa, les Sénégalais, ils ont tout fait des démons. Malaria, il faut aider. C'est ça, ces démons-là. C'est pourquoi moi je me suis dit, bon, aller à l'hôpital pour me faire examiner pour les questions de malades. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on voit seulement que c'est ça. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués à trouver la santé comme un élément de défi. C'est normal. Voilà, c'est ça que j'avais à dire par rapport à ça.
Merci. Saint-Guy, vous l'avez dit, il ne faut pas toujours accuser le gouvernement, mais il y a aussi la part des responsabilités de la population elle-même. Vous avez décrit la situation à Kinshasa, où il y a où les moustiques lui-même dans les structures de santé, dans les hôpitaux où on pouvait trouver la propriété. Vous dites qu'il y a aussi l'environnement qui est pollué dans les structures de santé qui doivent en principe accueillir les malades, et là ça devient un problème sérieux. Mais il faut d'abord commencer par la prise de conscience de chacun individuellement dans sa parcelle, là où il vit, son milieu, dans le quartier, pourquoi pas aussi dans les bureaux et partout, pour lutter efficacement contre cette maladie. Merci beaucoup Sengi. Nous allons à Lubumbashi au Katanga, nous avons Dr Firo, vous êtes avec nous, bonjour.
Et bonjour,
vous êtes médecin, vous travaillez à Lubumbashi, à Kalemie, je crois peut-être dans le Katanga, et nous parlons de la prévention des paludismes. Vous, en tant que médecin, parlez-nous un peu de votre expérience là où vous êtes par rapport à la lutte contre cette maladie.
Je vois que la plupart des intervenants de la radio Kapi ont vraiment eu une mauvaise information à propos de cette prévention-là du paludisme. Parce que, oui, alors, monsieur Jean.
Allez-y, on vous écoute, vous êtes les enfants, on vous écoute.
Oui. Parce que pour qu'une personne arrive vraiment à se prévenir d'une maladie, il faut que cette personne-là connaisse c'est quoi cette maladie-là. Le fait que la plupart de la population ne connaisse pas vraiment quels sont les signes du paludisme, ne connaisse pas vraiment comment faire pour prévenir contre le paludisme, spécialement cette population-là, arrive à des phases comme des complications. Pour cela, je vais ajouter ma contribution. Nous devons vraiment se donner la peine de faire une grande sensibilisation dans nos populations. Et cette sensibilisation doit être globale. Nous devons dire à la population comment faire l'assainissement du milieu. On ne peut pas se limiter à dire à la population non. L'assainissement du milieu pour vous prévenir contre le paludisme. Il faut bon, bien étaler c'est quoi l'assainissement du milieu. Il faut bien assainir le milieu, il faut couper tous les herbes qui vous entourent. Il faut bien jeter toutes les boîtes de conserve que vous utilisez. Il ne faut pas les laisser à votre entourage. Il faut bien vider toutes les eaux stagnantes qui se trouvent à votre entourage. C'est ce qu'on doit dire à la population. Il y a la distribution de moustiquaires imprégnés. En effet, ici, paraît-il, salue l'action de l'ESS et du gouvernement pour la distribution récente de ces moustiquaires. Mais il y a un problème, monsieur le journaliste. Cette distribution-là des moustiquaires, il faut être accompagné par une sensibilisation. Cette sensibilisation devrait tester le moyen de prévenir le paludisme dans le milieu où les bénéficiaires vivent. Parce que, avec la moustiquaire, on la place dans la chambre, on est obligé de passer tout le temps dans les salons. Où on ne peut pas être dans une moustiquaire. À partir de là, on peut être piqué par la nocelle. En dehors de là, on doit aussi apprendre à notre population la méthode de la prophylaxie. Là, c'est pour répondre à notre auditeur qui nous a dit maintenant, nous, on se promène à cours de route, on peut être piqué par la moustique. Cet auditeur-là, s'il peut au moins utiliser la prophylaxie, ça peut l'aider, parce que la prophylaxie, c'est une méthode qui semble aussi être négligée à nos jours. Or, il est le moins coûteux que le curatif du pays. Monsieur le journaliste, il y a aussi un point qui soit souligné. Ce point est adressé à notre gouvernement. Parce que notre gouvernement doit chercher une stratégie à mettre en œuvre pour que
les antipalidaires puissent avoir au moins un coup réduit. Hein, pas de faire des coups réduits, j'étais à Dijon, vers le plus, qui coûte 200 francs. Mais dans les marchés, les antipalidaires sont devenus trop chers. Or, la plupart des patients qui souffrent du paludisme sont dans une population pauvre, mais ils
n'ont pas le moyen de pouvoir se procurer des médicaments qui coûtent cher.
Oh oui, c'est ça le problème. Et c'est ce qui amène à des complications sévères, des complications fatales pour les gens qui sont infectés de ce paludisme. Voilà.
Merci. Merci beaucoup, docteur Pierrot, de ces témoignages. Al-Boumbachi, vous avez résumé, bien sûr, qu'il faut d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est la sensibilisation globale. Hein. Et cette façon aussi d'accompagner la distribution des moustiquaires imprégnés. Il faut aussi insister sur la prophylaxie, mais il faut, au niveau du pouvoir public, quelle stratégie pour un accès facile aux médicaments contre le paludisme, parce que ces médicaments coûtent cher. Quand vous prescrivez un médicament ici à Kinshasa, par exemple, on vous dit, ça, c'est une spécialité, vous allez en formation, on vous dit, il faut en avoir à 20 dollars, 15, 20 dollars, 10 dollars. Or, ceux qui développent cette maladie, la plupart sont pauvres, ils ne peuvent pas payer ces médicaments. Et là, on peut recourir à n'importe quel médicament pour se faire soigner. Et on tombe dans les complications. Séraphin, vous êtes à Ouvira. Nous allons vous accorder la parole directement, revenir ici à Kinshasa, à notre invité, Dr Francine Kinigi, pour commenter ces interventions des auditeurs jusqu'à ce niveau du débat. Séraphin, vous êtes avec nous. D'Ouvira, c'est aussi qui vous. Bonjour, Séraphin.
Oui, bonjour, ton copieron, ainsi qu'à tous ceux de la radio Capi.
On vous écoute.
Oui, merci de me consulter que mon frère soit de plus à passer à cette émission. Bon, je pense et assumer quand même.
Oui, c'est ça, on a des petits soucis. Essayez de vous déplacer un tout petit peu pendant que vous parlez. Ça peut améliorer peut-être l'intervention parce que là, on a des petits soucis. On vous écoute.
Oui, je me déplace parce que je ne sais pas où mettre.
C'est bon, maintenant, on peut avancer, oui.
D'accord, je disais ceci. Oui.
Non, voilà, ça, il y a des petits problèmes. Peut-être on pourra voir comment arranger cela avec la réalisation. Séraphin, vous êtes à Ouvira. Dommage que la ligne téléphonique ne nous permet pas d'avancer, d'aller plus loin. 081-890-4339, c'est le numéro d'intervention dans cette émission consacrée, bien sûr, à la prévention du paludisme. Nous en parlons avec Dr Francine Kindidi qui est avec nous sur les antennes. Et vous avez été très nombreux à vous exprimer. On va lui accorder la parole. Séraphin, c'est bon maintenant. Je crois qu'on peut avancer, Séraphin.
Oui, je ne sais pas si vous me connaissez, Léna.
Oui, c'est bon, on a des petits soucis, mais allez-y quand même, oui.
Oui, merci. Moi, je disais ceci, donc la meilleure façon aujourd'hui de prévenir le palis, d'abord, c'est assainir le... Deuxième chose aussi, c'est de dormir sous un moustiquaire imprégné. Mm-hmm. Mais ce que moi, je regrette, c'est que je demande même, lors de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés au niveau de notre territoire, bon, c'était une campagne entreprise par l'USAID, on disait qu'on devrait distribuer à chaque membre de la famille un moustiquaire. Mais fort malheureusement, on avait donné au moins deux ou trois moustiquaires par...
Voilà, non, là, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, Séraphin. Vous avez quand même expliqué, vous avez dit qu'il faut la campagne d'assainissement du milieu, mais il faut aussi la distribution de moustiquaires imprégnés. Mais bon, là, on n'a pas suivi la suite hein, à Ouvira. C'était prévu qu'on accorde une moustiquaire à chaque membre de famille, mais malheureusement, vous êtes rendu compte qu'on a donné deux seulement ou bien c'est pour toute la famille. Peut-être que les autres ne pourront pas avoir le moyen de dormir sous la moustiquaire imprégnée. Charles, vous êtes à Kananga, vous gardez la ligne, on pourra vous accorder la parole juste après l'intervention de notre invité.
Pour s'informer, je suis sur site internet choisisradiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Docteur Francine, vous êtes avec nous?
Oui.
Alors, venez de suivre une série d'auditeurs à prendre la ligne téléphonique, c'est amélioré. Vous avez suivi beaucoup d'auditeurs qui sont revenus sur, ils ont posé les problèmes de sensibilisation, l'assainissement du milieu, la distribution des moustiquaires, mais les uns pensent que les mesures à elles seules à ce niveau-là ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Il y a aussi Dr Pierrot qui est revenu sur les problèmes de la prophylaxie, mais qui a pensé aussi qu'il faudrait un coût réduit des médicaments contre le paludisme, vu que ceux qui coûtent cher ne peuvent pas être à la portée de tout le monde. Et puis là, tout de suite, on a des cas, peut-être des résistances et aussi des complications. Eu égard à tout ce qui a été dit, quel est votre commentaire par rapport à tous ces points de vue et toutes ces propositions?
Oui, les différents commentaires des différents intervenants montrent clairement les soucis de la population par rapport à ce paludisme, qui est le quotidien, on va dire, le quotidien des Congolais. Et c'est vrai que les différents, ce sont des interventions qui sont bien à propos. Et je crois que c'est l'auditeur du café qui a présenté statistiques à l'appui une série de données épidémiologiques qui sont tout à fait vérifiables et correctes. Mais en ce qui concerne la prophylaxie, c'est vrai, on ne met pas beaucoup l'accent, on semble ne pas mettre beaucoup l'accent là-dessus. Mais je pense que l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides fait partie de la prophylaxie. Parce qu'avec la situation actuelle liée à la multirésistance, il est un peu dit que la prophylaxie, quoique étant toujours de mise, n'a pas beaucoup d'impact.
Et docteur, en termes clairs, la prophylaxie, ça veut dire quoi?
La prévention. La prophylaxie, en médecine, lorsqu'on parle de prophylaxie, un traitement prophylaxique, c'est-à-dire un traitement qu'on donne pour prévenir.
Ah bon, on peut acheter on peut prendre un médicament pour prévenir
il y a quelques années, cela se faisait encore. Mais actuellement, étant donné les différentes caractéristiques de la situation du paludisme dans notre pays et les différentes réalités en rapport, comme je vous l'ai dit, la malaria chez nous, le paludisme, sévit de façon endémique, avec par moments des poussées épidémiques qui peuvent être liées à la saison ou à d'autres facteurs. Donc, étant donné cet élément-là, la prophylaxie peut avoir des résultats quelque peu mitigés. Donc, il faut l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides est pour moi actuellement le fer de lance de la prophylaxie antipaludéenne. Mais bien sûr, comme l'a dit un auditeur, on peut le moustiquaire, on l'utilise en chambre, on peut être piqué au salon, c'est vrai. Donc, il y a aussi, comme nous disons en fait la même chose, mais sur par des langages différents, je voudrais dire, et il y a aussi l'assainissement du milieu. L'assainissement du milieu, comme l'a dit un auditeur, je ne sais plus de quelle partie du pays il était, mais il a dit quelque chose de très important. C'est vrai que nous ne pouvons pas tout faire retomber sur le dos du gouvernement.
Oui, c'est lui des Kinshasa.
Voilà, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a une part qui doit être faite par le pouvoir public, c'est vrai, mais il y a aussi notre implication personnelle. Ce n'est pas le pouvoir public, les pouvoirs publics qui viendront devant chez nous pour mettre de l'ordre, pour enlever les détritus, pour traiter les immondices, etc. Donc je crois qu'à un certain niveau, il y a une implication personnelle et à un niveau plus haut, plus élevé, il y a la part des pouvoirs publics.
Voilà, merci Dr Francine. On va écouter Charles qui est à Tanangafranc, qui est à Goma, au nord Kivu. On commence avec vous, Charles. Vous êtes avec nous, je crois bien qu'il... Oui, Charles est à Kananga, Franck est à Goma. On va vous accorder la parole. Je rappelle, le sujet du jour, c'est la prévention du cas du paludisme dans notre milieu avec ces 270 personnes qui sont mortes de paludisme en 3 semaines dans la 6e des santé du district sanitaire du Haut-Uele en province orientale. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'introduire ainsi avec vous cette émission, plusieurs propositions, plusieurs points de vue, plusieurs questions aussi dans cette émission. Nous partageons ensemble ce qu'il faut faire de l'assainissement du milieu en passant par sur la distribution de moustiquaires imprégnés et à la sensibilisation, beaucoup de mesures qui doivent être prises pour lutter contre cette maladie. Vous êtes avec nous, Charles de Kananga, au Kassai occidental. Bonjour. Charles, vous êtes sur les antennes. Bonjour. Non, on vous écoute, Charles. Vous avez suivi les uns et les autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire au-delà de ce qu'ils ont déjà proposé pour la prévention de cas de paludisme dans votre milieu?
Oui. Bon, je sais très bien que notre pays a bien organisé pour distribuer les moustiquaires imprégnés pour la prévention contre le paludisme, ça c'est le malaria en sigle. Alors, moi-même, je suis en train de regretter.
Pourquoi
nos enfants sont en train de dormir dans de bonnes conditions? Parce que toutes les maisons sont bourrées vraiment de moustiquaires imprégnés.
Mm-hmm.
Mais quand nous sommes encore dehors, vers 19h, 20h, les moustiquaires sont en train de nous piquer.
Les moustiques, vous voulez dire les moustiques, là?
Oui, les moustiques sont en train de nous piquer.
Mm-hmm.
Alors, je ne sais pas comment. Est-ce que, oh bon, il y a une méthode qu'on peut appliquer pour prévenir quand les gens sont encore dehors? Parce que moi-même, je suis victime. Ma fille de 10 ans vient de mourir il n'y a pas deux semaines.
Désolé,
à cause de la malaria, oui. Bon, il y a laissé les examens au cours. Alors, c'est un problème de malaria. Il y a eu une augmentation très rapide, vraiment, de la race. Quand nous sommes arrivés au dispensaire, on dit que non, c'est déjà tard. Alors, on a cherché à transiser. On a demandé beaucoup d'argent pendant que moi, je n'avais pas de possibilité. Alors, et surtout, j'ai remarqué encore sur la prophylaxie qu'on vient de parler par notre médecin. Bon, parce qu'il y a la prophylaxie, bon, médicamenteuse. Par exemple, actuellement, tous les médicaments qui viennent de la Chine, vraiment, ce ne sont pas les médicaments qui ont à une dose bien concentrée. Parce qu'auparavant, nous avions des produits qui traitaient normalement nos enfants, soit nous les adultes, contre le paludisme. Alors actuellement, nous remarquons, même la différence ici pour faire baisser la fièvre, la différence consiste aussi à l'anémie.
Voilà.
Tout ça, ça nous tape sur le nerf, en tout cas,
merci.
C'est pas bien.
Merci beaucoup, Charles.
Le gouvernement puisse faire quand même autre méthode pour trouver les moyens nécessaires pour vraiment arrêter cette...
La maladie paludisme. Merci beaucoup. Merci. Merci Charles. Vous êtes à Kananga et désolé vraiment pour ce qui vous est arrivé à perdre une fille de 10 ans à une anémie. Vous avez décrit comment cela est arrivé. Vous arrivez à l'hôpital. Elle avait déjà une augmentation de la rate. C'était trop tard. Il fallait transfuser. Il n'y avait pas moyen de transfuser. Vous avez perdu cet enfant. Vraiment, c'est un témoignage touchant qu'on perd un enfant de 10 ans pour le paludisme. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de moustiquaires à Kananga. Beaucoup de gens ont les moustiquaires. Mais il se pose un problème de temps qu'on passe en dehors de moustiquaires. Mais aussi, vous avez soulevé cette question de médicaments qui circulent, ceux qui sont peut-être prescrits par le médecin, ceux qu'on se procure en pharmacie, le problème de médicaments peut-être sous-dosés, les contre-effets, tout ça. C'est un problème sérieux, n'est-ce pas, dans la lutte contre les paludismes. On va évoquer cet angle-là avec notre invité. Merci beaucoup de ces témoignages des Kananga au Kasaï occidental. Nous avons Franck qui est à Goma, au nord de vous. Bonjour Franck.
Bonjour. En fait, je voulais apporter une contribution par rapport à l'émission.
Mm-hmm.
Il est vrai que la prévention du paludisme, c'est un problème qui intéresse et la population et l'autorité publique qui régule le domaine de la santé.
Mm-hmm.
Ce que je voudrais dire, c'est que l'assainissement, c'est une bonne chose. Il y a une part pour la population, il y a aussi une autre part pour le gouvernement. Mais là où j'aimerais un peu insister, c'est par rapport à la distribution des moustiquaires imprégnés. Les moustiquaires, c'est vrai, nous l'avons vu ici dans notre contrôle, on a distribué les moustiquaires. Mais c'est pose un problème de la perception collective et individuelle des moustiquaires à la population.
Uh-huh.
On a vu l'usage abusif des moustiquaires, des gens qui ont reçu les moustiquaires, mais qui s'en servent autrement. Ils prennent des moustiquaires pour se placer sous un arbre, être sous les pénombres en utilisant les moustiquaires. Pour la pêche, on a utilisé des moustiquaires. On a même utilisé le fil des moustiquaires là pour essayer de tirer un peu les chèvres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement qu'il faut une éducation de la population pour leur montrer le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire parce que c'est de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent pour faire cette prévention. Et donc, il y a un besoin de sensibiliser de la population par rapport à ça. La deuxième chose que j'aimerais dire, comme le texte de le dire, c'est qu'il y a un problème aussi de prise en charge. Non pas seulement. On peut faire la prévention, mais nous sommes tous d'accord que la prévention ne suffit pas. Il y a des gens quand même qui feront un paludisme clinique, un paludisme maladie. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut former des prestataires. Nous, on se rend compte, moi, je suis ici à la province, je suis ici dans beaucoup de milieux. Vous voyez, vous êtes dans le milieu où on vous prescrit la quinine à un comprimé par jour pour un adulte. Mm-hmm. Ça pose déjà un problème. Le ministère de la Santé qui est chargé de réguler les domaines, il établit les normes. Mais quand il établit les normes, il dit qu'il faut telle molécule pour telle catégorie de paludisme, comme l'inviter l'a classifié, paludisme simple et compliqué. Mais les communautés ne suivent pas. Ceux qui doivent accompagner en termes de médicaments, on ne donne pas les médicaments. On ne fait pas une couverture générale des zones de santé. Mm-hmm. Aujourd'hui, nos enfants sont touchés par le paludisme, comme le CSN l'a dit, la forme anémique. Mais vous vous retrouvez dans des zones où il n'y a même pas une banque de sang. Vous vous retrouvez dans des zones où on ne peut même pas faire des tests pour faire assurer la qualité des sangs que nous avons transfusés. Ça, c'est un problème de la responsabilité de l'État. Pour vraiment prendre en charge les gens, édicter les normes, c'est une bonne chose, mais donner aussi les accompagnements des voilà. Pour qu'aujourd'hui, notre pays a les médicaments qui viennent de partout. Mais l'autorité sanitaire doit régler ces domaines pour dire, moi, j'accepte tel catégorie de médicaments, on les disponible au niveau du pays, une distribution nationale. On ne fait pas qu'à Kinshasa, parce que souvent on parle de Kinshasa, mais les contrats plus réguliers où les problèmes se posent, et là on n'a pas la réalité de ce qui se passe à l'arrière-pays. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire pour contribuer à cette émission. Voilà.
Merci beaucoup, Franck. Avec beaucoup de précisions et de termes clairs, hein, vous avez décrit la situation. Vous avez raison. Charles qui a évoqué ce problème de médicaments qui circulent, les médicaments qu'on vend, qu'on prescrit. Mais vous avez ajouté aussi, au-delà de la distribution de moustiquaires, mais il faut aussi un accompagnement par rapport à la perception même générale. On a vu des coins du pays où les moustiquaires ont été utilisés comme filets pour attraper, pour la pêche. Les gens les utilisent pour n'importe quoi. Alors tout ça, il faut insister, il faut éduquer la population, mais aussi former les prestataires de services par rapport aux molécules qui doivent être utilisées et comment les utiliser. Nous allons écouter rapidement le dernier auditeur, c'est Jean-Baptiste qui est en province orientale, avant de suivre la conclusion avec Dr. Francine. Jean-Baptiste, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, les téléjournalistes et tous les auditeurs de la radio
partie. Rapidement, en une minute, vous êtes dans quelle ville en province orientale, Jean-Baptiste?
Je pensais de...
Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne, mais alors on vous écoute rapidement là parce que là on n'a pas beaucoup de temps et la qualité aussi de la ligne téléphonique nous pose problème.
Merci de m'avoir assisté à cette émission. À ce qui concerne l'épidémie de maladies qui ravage nos enfants, je veux vous dire ceci. Dans notre zone de santé de Diagana, le nombre qui était donné par les médecins sur des zones n'est pas bon et c'est faux. Ici, ils n'ont pas adopté la population ainsi que les autorités locales pour en avoir des nombres qui est exact. Alors, à cela, on nous a envoyé des médicaments qui sont insuffisants pour la prise en charge des enfants. Alors, un médicament tel que comme Arsenate, on va dans des pharmacies à 1500. Arrivé à l'hôpital, on vous demande de payer des consultations à 3000 francs. Alors, c'est mieux de rester à la maison pour acheter des Arsenate dans des pharmacies pour se soigner. Les gens se soignent aussi à la maison.
Voilà, merci. Merci Jean-Baptiste. On ne sera pas allé plus loin. On n'a que 2 minutes et demie pour que l'invité puisse conclure cette émission. Mais vous avez dit, vous contestez les chiffres donnés au niveau du district. Hein. On ne sera pas entré dans cette guerre de chiffres. Hein. Vous êtes à Viadana. Viadana était aussi concerné par ce problème de l'épidémie du paludisme. On ne sera pas entré dans cette guerre de chiffres. Mais vous avez dit quelque chose de très important. Au niveau de l'hôpital, pour être consulté, ça coûte cher. Alors les gens préfèrent aller en pharmacie, payer le médicament qui est moins cher qu'à l'hôpital, et là, ils se font soigner à la maison, ça pose un véritable problème. On revient à vous, docteur Francine, on va clôturer cette émission avec vous. Vous avez suivi les uns et les autres, les difficultés, les compréhensions des auditeurs. En 1 minute 45 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la lutte contre le paludisme? Et cela vous permet aussi de conclure cette émission de ce jour.
Et en ce qui concerne la lutte contre le paludisme, c'est une lutte de longue haleine. Les résultats sont déjà notés, c'est vrai, mais il y a encore de gros efforts à fournir parce que c'est une maladie que nous gérons au quotidien. C'est une maladie qui fait partie, qui représente un grand pourcentage des malades que nous recevons en consultation et des malades qui sont hospitalisés. Il faut, comme l'a dit un des derniers intervenants, un encadrement des prestataires de santé. Il faut en tout cas que la population évite une automédication qui est une source assez non négligeable de pharmacorésistance. Dans tous les cas, c'est une lutte dans laquelle l'apport des uns et des autres est importante afin d'éradiquer pour de bon ce paludisme que nous appelons de tous nos voeux, en tout cas à cette éradication, pour un délai plus ou moins que nous espérons que nous soyons le plus court possible.
Merci.
Donc c'est une maladie qui nécessite l'implication de tous.
Merci
et
beaucoup.
C'est la main dans la main que nous pourrons arriver à bout de cette pandémie.
Merci beaucoup, docteur Francine Kennedy, d'avoir accepté de commenter ce sujet avec les auditeurs de Radio Okapi. À qui nous disons aussi merci pour leur sympathique attention. Parole aux auditeurs vous retrouve le lundi 9 juillet prochain et nous allons parler de la situation à l'est du pays. Bruxelles appelle Kinshasa et Kigali au dialogue sur l'insécurité à l'est. L'ONG La Voix des Sans Voix, de son côté, invite plutôt la communauté internationale à condamner directement le Rwanda pour son rôle dans le soutien des mutins. Comment réagissez-vous face à cette situation? On se retrouve le lundi prochain. Merci beaucoup à Willem Lungamba, Kikim Poutou et Comtesse Matouba qui nous ont permis de réaliser, de produire cette émission supervisée par Nicole Ngata. Le programme continue sur Radio Okapi et surtout, bon week-end à tous.